Dans un sens, c'est aussi vraiment quelque chose dont on avait l'intuition et dont on a eu la confirmation pendant cette recherche, c'est que évidemment, il y a des savoir-faire traditionnels qui se perdent et qui étaient écologiques parce que tout simplement utiliser les matériaux locaux avec des techniques simples et adaptées au climat. Et que c'est vrai que il y a une fascination peut-être pour le mode de vie occidentale maintenant qui est diffusée par les médias et qui fait que la maison moderne, c'est la maison en béton. Et dans plein de pays, notamment tropicaux, où on s'est rendu, on s'est vraiment aperçu que le béton était une aberration parce que ça prend l'humidité. Effectivement, quand il y a des séismes, c'est vraiment une catastrophe. Et puis ça respire pas. Et donc il y a par exemple au Nicaragua un très beau projet qu'on est allé filmer d'une femme architecte nicaraguayenne qui revalorise en fait les constructions en adobe, donc en briques de terre crue, et qui s'appuie en fait sur les savoir-faire traditionnels puisque le Nicaragua construit depuis des centaines d'années avec ses briques de terre crue dans les villages. Et donc cette femme, elle a fait beaucoup de recherches pour améliorer les adobes et montrer aux villageois comment faire en sorte que cette technique qui est très simple et peu chère puisse être un tout petit peu améliorée pour justement résister aux tremblements de terre, parce que c'est une zone aussi assez sismique. Et cette femme, donc, elle mène en fait des projets dans les villages, notamment auprès des femmes, qui sont traditionnellement aussi prennent part à la construction de la maison et des fours aussi, des fours en terre. Et puis elle forme aussi maintenant des jeunes architectes à cette technique de construction. Et elle va notamment monter maintenant un Master 2 à l'Université de Managua. Qui va justement former les architectes qui veulent apprendre cette technique de construction.
Alors justement, alors cet architecte va enseigner dans un cadre tout ce qu'il y a de plus conventionnel à l'université. Donc finalement, toutes ces rencontres, elles sont sur des projets qui peuvent être pas anecdotiques, mais qui restent expérimentales ou pas connues du grand public. Et pour autant, les porteurs de projets ne sont pas de doux farfelus, des hippies, voilà, des choses comme ça, Olivier.
Ben non, il y en a, mais il n'y a pas que ça, il y a justement, il y a une diversité d'acteurs, et nous, c'est ça qui nous intéressait, en fait, de montrer justement qu'il n'y a pas que des experts, ou il n'y a pas que des hippies, ou il n'y a pas que des jeunes, ou que des vieux, il y a vraiment une diversité de gens qui réfléchissent à toutes ces questions. Et donc, bah, par exemple, aussi, justement, un autre projet qu'on a été voir. Donc, alors, c'est plus une personne pour montrer qu'il n'y a pas que des hippies. C'est en Colombie, on a vu un architecte qui s'appelle Simone Vélez et qui est sans doute un ou la personne la plus connue dans le monde en tant qu'architecte sur le bambou. Et donc.
Emmanuel, est-ce que tu le connais? Emmanuel dit non.
Et donc, là, pour le coup. C'est donc une personne qui est dont la famille, enfin, il vient d'une famille d'architectes, mais qui était plus, voilà, classique et qui faisait des constructions en béton. Lui s'est intéressé, au bambou et il a, trouvé un système avec, un de ses amis pour, en fait, injecter un mortier, alors à base de ciment quand même, mais, à l'endroit où se joignent les bambous, et ça lui permet de repousser un peu les caractéristiques mécaniques du bambou et de faire de très grandes structures. Alors des structures publiques et des structures privées. Et pour le coup, là, il fait des structures privées qui sont magnifiques, mais qui coûtent énormément d'argent et qui sont pour des gens très riches. Et donc ça aussi, c'était intéressant pour nous d'aller voir des gens qui travaillaient avec des matériaux naturels, mais pour aussi des riches personnes, en fait, pour montrer, justement, comme Chloé le disait, il y a une fascination dans les pays pauvres, mais même dans les pays riches, finalement, pour un certain type de maison, qui sont des grandes maisons, mais presque toujours en béton, alors des fois avec un peu de bois quand même. Et justement, pour changer la vision des gens en fait sur certains matériaux et sur certaines techniques de construction, ben il faut aussi qu'il y ait des gens très riches, alors des acteurs très connus ou des footballeurs peut-être, puisque maintenant ça va être l'euro, ouais. ou des hommes politiques, ou mais qui en fait utilisent ces matériaux pour eux-mêmes, pour que les gens se disent ah, c'est pas en fait que pour les pauvres, ça peut être très beau et même les très riches s'y mettent, donc pourquoi pas nous.
Alors, je vous propose qu'on écoute un deuxième morceau de musique. Alors, celui-ci, choisi par Emmanuel, il vous dira juste après ce qu'il a choisi, rien que pour vous.
America de Rammstein, donc c'est un groupe assez ancien, qui était allemand de l'Est, qui était à Berlin-Est, et ce morceau traite de la mondialisation d'une manière assez fine et très bien, voilà.
Alors cette mondialisation, c'est aussi la mondialisation de la forme d'habiter. C'est ce que vous avez traité, Chloé et Olivier, pendant ce long périple éco-logis. D'ailleurs, on rappellera tout à l'heure votre page Facebook, site internet, etc. Et America, vous y êtes allée, justement, Chloé.
Oui, alors On a passé 2 mois aux États-Unis, plutôt donc dans le sud des États-Unis et notamment dans le désert du Nouveau-Mexique. Et alors ça, c'était un des projets qu'on avait vraiment ciblé avant même de partir. On savait qu'on irait à Taos voir les Earthships. Donc c'est les vaisseaux de la Terre, on dirait en français. Donc c'est des maisons assez iconoclastes qui sont construites à base de matériaux récupérés, donc les pneus et les bouteilles de verre, et qui ont été créées par un architecte un peu fou qui s'appelle Michael Reynolds et qui a eu l'idée d'utiliser notamment les pneus pour construire les murs de ces maisons. Et donc c'est des pneus qui sont remplis donc de terre, un peu comme la technique qu'Olivier expliquait, les sacs de terre compressés. Là c'est le même principe. Il y a un contenant, donc les pneus, et donc ils sont empilés les uns sur les autres, et puis après enduits avec un enduit soit naturel, soit en ciment. Et donc ce qui fait que on peut ne pas savoir en fait que la maison est construite en pneus. Mais c'est pas la seule particularité des Earthships. Il y en a plein d'autres, en fait, parce que cet architecte, il a un peu combiné toutes les bonnes idées de d'éco-construction dans un seul concept. Donc, par exemple, l'orientation au sud des maisons, donc une grande façade vitrée bien exposée pour pouvoir faire rentrer la chaleur et la lumière. Et puis aussi tout un système de gestion de l'eau très ingénieux, puisque l'eau en fait est réutilisée jusqu'à 3 fois dans l'airship. Donc elle est collectée sur le toit, avec des gouttières qui mènent jusqu'à une grosse réserve d'eau. Et puis l'eau est utilisée, la bonne eau est utilisée pour la douche et l'évier. Et puis ensuite, elle est filtrée par des plantes qui sont à l'intérieur de la maison et qui vont permettre de réutiliser cette eau pour les toilettes, les eaux grises. Et l'eau va finalement être retraitée une troisième fois à l'extérieur de la maison par des bassins de phytoépuration pour après arroser le jardin.
Alors ce type de maison, c'est à titre expérimental ou il y en a déjà plusieurs qui ont été développées ?
Alors les Earthships ont été inventées dans les années 80 ou 70. Et depuis, en fait, le concept a vraiment fait boule de neige parce que donc à Taos, au Nouveau-Mexique, il y a toute une zone en fait d'expérimentation qui a été octroyée à cet architecte. Et donc maintenant, on compte peut-être 600 Earthships dans cette zone. Et en fait, ça c'est un concept aussi qui séduit de plus en plus les éco-constructeurs de pays développés, donc au Canada, en Europe. Et donc, par exemple, en France, avant de partir, on était allé en visiter un en Normandie, à Gers, qui se visite parce que c'est un gîte, en fait. Et donc là, il y a aussi deux Earthships qui se construisent en Dordogne, qu'on va aller peut-être filmer cet été. Donc c'est vraiment un gros concept qui fait boule de neige.
Olivier, tu voulais apporter un complément?
Oui, justement. Alors, les Earthships en Dordogne, c'est intéressant. Alors, on pense y aller, on n'est pas encore allé. Mais la démarche des personnes qui construisent 2 Earthships en Dordogne, en fait, donc ils ont fait une espèce d'école à Taos, justement, pour apprendre à construire ces Earthships. Ils sont rentrés en France et ils se sont dit, ben voilà, on a un super concept. Et ben, il y a sans doute des gens qui sont intéressés pour construire ce type de maison. Donc, nous, on va vendre ce concept. Et donc, ils ont proposé à des personnes de construire des Earthships. Ils ont trouvé des personnes intéressées, mais là justement, ils se sont heurtés à ce dont on parlait tout à l'heure, la législation. Donc ça a été très difficile, voire impossible, d'obtenir des permis de construire. Et alors ils se sont dit, bon, parce que personne ne veut trop prendre de risques, on va essayer au moins de trouver une municipalité qui nous autorise à faire un test, à construire des Earthships, et puis à faire en sorte que les gens puissent les visiter et voir en fait ce que c'est. Parce que c'est vrai que quand c'est un peu comme les sacs de terre, là, quand on dit maison en pneus, je pense que la première réaction, c'est qu'est-ce que c'est que ces maisons ? Enfin, ça veut rien dire. Et donc là, c'est bon, on va les faire, et puis vous allez venir voir, et puis les professionnels pourront faire des tests. s'il souhaite. Et puis, vous allez voir que c'est des vraies maisons qui fonctionnent et qui ont beaucoup d'avantages.
Alors, j'imagine que là aussi, il y a des questions qui se posent, notamment en France. Comment on va octroyer une garantie décennale, etc., pour ce type d'habitat? Mais l'objectif, c'est vraiment de prouver par l'exemple, en fait, que ces choses sont possibles. Alors, on a fait un rapide tour du monde, Chloé et Olivier. Et j'aimerais qu'on consacre les dernières minutes de l'émission, de ce temps libre, pour parler de l'avenir. Donc, tu l'as évoqué, Chloé, en début d'émission, un projet d'exposition. Ça, c'est votre priorité pour cette année?
Oui, en fait, l'objectif là pour cet automne, ça va être de monter une exposition itinérante qui va montrer en images et en texte et en vidéo aussi, puisqu'il y aura des extraits du film à venir. Donc les différentes techniques de construction qu'on a découvertes. Et on aimerait que cette expo puisse être l'occasion aussi de rencontrer le public en faisant des visites guidées, peut-être des conférences, pour pouvoir partager notre ressenti aussi de vive voix sur notre expérience. Et puis donc, à plus long terme, le film qu'on prévoit pour 2017.
Alors, tu as dit un mot magique, tu as dit le mot texte. Quand on parle de texte, eh bien tout de suite... c'est qu'il est l'heure de la chronique d'Emmanuel. On l'écoute et puis ensuite on revient à l'avenir de vos projets qui arrivent.
Ça va être difficile avec le micro. Faut pas le dire à la radio, ça se dit pas. Bon, c'est une petite chronique que j'ai écrite exprès pour vous, même si elle ne vous concerne pas directement, elle concerne plutôt notre triste pays, mais c'est autre chose. Ici, ailleurs, partout, dehors, on dort. On dort dehors. On ne sait plus quel monde rêver tant celui-là a sombré. Tant on s'y perd, dépendant, aliéné, au piège pris, pieds et poings liés. Je l'entends encore dire, jamais aussi libre on fut. Mais dans quel monde vis-tu? Tu permets que je te tutoie, cher élu de nos contrées, petite sœur de Jaurès, enfin de la démagogie princière, sans autre pouvoir que celui de nous mener à notre perte. Oui, je te tutoie, mais ne me rapproche pas. Quand tout nous éloigne, distance prise, je coupe à travers champs, traverse la ville, tu ne me vois pas. Tu m'as perdu de vue, œillère, œillère, tu en as perdu la vue. On dort dehors, entre les poubelles, sous les porches, dans les cabines téléphoniques, sous les ponts, dans des tentes, entre les voitures, on dort où on peut, si seulement on dormait sur les toits. On dort dehors, installant des cartons sur un banc public pour faire abri, comme on s'installe sur un matelas dont d'autres ne voulaient plus. On dort à poings fermés tant l'alcool efface le noir, le vide, le trou dans le corps, la douleur, venue à soi. On dort dehors, de plus en plus, à chaque coin de rue, à Paris et ailleurs, on dort dans la rue. Je me souviens du logement social, des bars alignés comme des pièces inventoriées. Je me souviens des peintures fraîches, des cages d'escalier. Je me souviens. Je me souviens des chemins tracés d'un trait d'encre sur des paysages effacés. Je me souviens des rêves oubliés sur des calques déroulés. Je me souviens. Je me souviens des centres-villes éclairés, enseignes et lampadaires. Je me souviens de la rue, gamin, parcouru, émerveillé. Je me souviens. Je ne vois plus rien d'autre. On dort dehors, aujourd'hui, ici, ailleurs.
Merci beaucoup Emmanuel, qui interpelle justement sur un des enjeux de l'habitat, c'est que au-delà de l'enjeu écologique, c'est un besoin humain, on est quasiment 7 milliards sur la planète, il faut pouvoir loger tout le monde. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose, une réalité, une problématique que vous avez rencontrée, celle des gens sans abri qui ont besoin de solutions justement alternatives, peut-être Olivier?
Bah oui, oui. Alors en plus, justement, au début de l'émission, je disais, dans les pays pauvres, il y a des gens qui n'ont pas de logement, mais aussi en fait en France. Hein, et puis dans les pays riches, effectivement, il y a des gens qui n'ont pas de logement ou des logements aussi très insalubres. Et notre réflexion, c'est aussi, alors justement, comment loger 7 milliards de personnes? Alors justement, on ne va pas pouvoir loger tout le monde si on continue à épuiser les ressources de notre planète. Donc ça, c'est une première question. Et puis après, nous, notre idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les constructions écologiques qu'on va voir puissent être reproductibles? Parce que justement, de plus en plus, il y a des concepts de logements écologiques qui apparaissent, mais qui sont finalement des logements très high-tech, en fait, basés sur la haute technologie. Mais du coup, qui coûtent très cher et donc que les gens en France ne peuvent pas, enfin la majorité des personnes en France ne peuvent pas y accéder et encore moins en Inde par exemple. Et donc justement, on est allé voir, justement, on rappelle les projets au Népal ou au Nicaragua, dans des régions vraiment parmi les plus pauvres du monde, et essayer de trouver quelles ont les populations dans ces pays, à quels matériaux ils ont accès, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir en fait. Il ne s'agit pas justement de construire partout en bambou ou partout en terre ou partout en paille. Il faut d'abord faire un peu un état des lieux, des ressources disponibles et des ressources accessibles et du climat bien évidemment. Donc l'objectif de ce projet, c'est vraiment de trouver une solution globale, même si ça ne sera pas seulement notre projet, et puis il faut plein d'acteurs, mais on a vraiment le sentiment, nous, avec ce projet, qu'il y a quand même un mouvement de gens qui grandit et qui essaie au moins de trouver des solutions pour améliorer un peu ce monde.
Chloé, justement, la question du climat, elle est importante. Est-ce que la question de l'adaptation du logement au climat tel qu'il sera dans 10, 20, 30 ans est déjà prise en compte justement par certains interlocuteurs que vous avez pu rencontrer ou cette projection, ça sera une des questions à se poser demain?
Alors l'adaptation du climat vis-à-vis du changement climatique, on ne l'a pas tellement rencontré, mais par contre, on peut par exemple citer un projet qu'on est allé voir au Québec, un éco-hameau qui a inventé une technique de construction en paille, en ballot de paille, qui s'appelle la technique du grève. Dans cet éco-hameau, tous les habitants en fait se sont questionnés déjà depuis 25 ans sur la fin du pétrole. Et en fait, ils ont décidé de créer cet éco-hameau en limitant au maximum leurs besoins en pétrole et en d'autres énergies, donc en limitant leurs déplacements, en cultivant sur place, en étant quasiment en autosuffisance. Et donc c'est des gens qui voient là qu'on a passé le pic pétrolier, qu'il y a des guerres aussi pour s'approprier ces ressources et qui se sont dit nous on veut plus cautionner ça, comment on peut faire à notre échelle pour voir venir cette échéance qui s'approche de plus en plus et ne pas se retrouver du jour au lendemain qu'est-ce qu'on fait.
Très bien, alors je vous propose une dernière petite courte pause musicale et ensuite on se retrouve pour parler de l'exposition, du film, vous donner des échéances et puis savoir où retrouver toutes les informations sur le projet de Chloé et d'Olivier. reconnu la douce voix et les doux instruments du Buena Vista Social Club. Le morceau s'appelle Chan Chan. Chloé me disait à l'instant que c'est un morceau qui a accompagné votre voyage.
Oui, on l'a entendu plusieurs fois, notamment en Colombie, évidemment. Et donc, c'est chouette aussi de voyager avec la musique.
Alors, on disait, votre actualité autour de ce projet Écologie, c'est cette exposition itinérante que vous avez l'objectif de faire sortir de terre à l'automne prochain. Et alors, de quoi avez-vous besoin? De l'huile de coude, Olivier, pour qu'elle aboutisse dans les temps?
Surtout là, on va rechercher des lieux en fait, hein, des lieux où pouvoir exposer, peut-être aussi des partenaires susceptibles de nous aider financièrement et puis nous de faire de la publicité aussi pour eux. Donc voilà, c'est surtout ça. Hein. Donc là, on va y travailler encore jusqu'à cet automne. Et puis en septembre, on va faire je sais pas comment je peux appeler ça, une petite soirée en fait, avec les Vagabonds de l'énergie. Donc c'est deux amis qui vont partir pour un an ou un an et demi, eux aussi en fait dans différents pays, pour faire une étude sur les énergies renouvelables. Et donc on va faire un espèce de passage à témoins où nous on commencera à montrer quelques extraits de notre exposition, alors des photos, peut-être aussi une bande-annonce du film, et puis eux expliqueront leur démarche. Et donc voilà, on trouvait que c'était une belle chose que de se rencontrer avant leur départ.
Faire un rendez-vous des alternatives pour habiter et puis pour l'efficacité, la production d'énergie. Alors, pour retrouver toutes les informations sur votre projet, Chloé et Olivier, donc il y a votre site internet, c'est eco-logis, donc logis, logis.org. D'ailleurs, on y retrouve déjà quelques belles photos qui permettent un peu d'illustrer tout ce dont on a parlé depuis 20 heures. Et puis également, votre page Facebook, c'est Écologie, là, en un seul mot, écologie.project. Donc voilà, et puis toute l'actualité, on continue à la suivre sur ces différents supports. Pour finir, Chloé, j'aimerais savoir, est-ce que, donc voilà, ça fait un peu plus d'un mois que vous êtes rentrée, donc on reprend un rythme normal, entre guillemets, parce que finalement, peut-être que la normalité pour vous, c'est devenu le voyage. Est-ce qu'il y a déjà des envies, des fourmillements dans les pieds?
Oui, évidemment, pendant ces 2 ans d'itinérance, on a aussi mûri d'autres projets de retour. Et donc là, on va aller en fait s'installer prochainement avec des amis pendant au moins la durée du montage du film, pendant une année et plus si affinité, dans un éco-hameau en Charente. Et donc voilà, c'est un lieu aussi où il y a un potentiel assez incroyable de monter des projets collectifs et de mutualisation des ressources. Et donc voilà, c'est l'envie. Suite à ce voyage.
Très bien, donc c'est là-bas, en Charente, qu'on pourra vous retrouver, Chloé et Olivier. Merci à vous d'avoir été avec nous pour ce Ton Libre. Et puis, cette émission, vous la réécouterez très vite sur le blog. Je vous